This is fellowship morning meetings for the purposes of the transcript.
Pour la transcription, c'est la réunion des boursiers de la matinée du mercredi 17 juillet d'Urban, Afrique du Sud, ICANN 47. Il est 7h25 et cette réunion se déroulera jusqu'à 9h du matin.
Good morning.
Bonjour à tous. On est mercredi et personne ne parle. Bonjour. Ce matin, il y a 4 membres de la communauté qui vont venir nous parler. Tel que cela est établi dans notre ordre du jour. Tout d'abord, il y a le représentant de RSSAC, GAC et RSSAC. La première chose que nous allons faire avant de passer la parole à Patrick, qui est à ma gauche, c'est souhaiter la bonne fête aux collègues avec nos collègues à distance, parce que c'est l'anniversaire d'Artac. Léon qui est en ligne, merci de me faire savoir de l'anniversaire de notre copain Patrick. Je te passe la parole. Patrick, merci, c'est toujours un plaisir de venir ici vous visiter. Merci Janice du travail que tu fais avec les boursiers. Je m'appelle Patrick Falstrop, je suis le président du comité conseil de la sécurité et la stabilité. Et ce matin, je suis accompagnée par la Jiwan Liman, l'un des coprésidents du RSSAC. Je vais vous présenter le rôle de notre organisation dans notre modèle multipartite et il y aura par la suite une séance de questions-réponses. Je vais vous parler tout d'abord du comité de la sécurité et la stabilité. Comme vous le savez, le sigle finit par AC. Cela veut dire que l'on est un comité consultatif. Nous n'avons pas de PDP. Par contre, nous répondons à des questions qui sont posées par le conseil d'administration, par exemple, ou d'autres parties de la communauté. Il est possible aussi que nous, on puisse détecter quelque chose d'important pour la communauté. Et alors, nous pouvons rédiger un avis ou des recommandations. Et les recommandations peuvent être n'importe quoi qui puisse concerner le conseil et la communauté. Ce que nous rédigeons doit être lié avec notre statut, ce qui veut dire que l'on conseille le conseil et la communauté sur la sécurité et la stabilité des noms de domaine et des systèmes d'adressage. Nous travaillons avec le DNS, le système de noms de domaine et aussi avec des adresses IP, routing, etc. Nous faisons des évaluations techniques et s'il y a quelqu'un qui veut parler d'une question d'affaires ou commerciale qui ne marche pas, ce n'est pas notre affaire. Hein. S'il y a des questions juridiques à résoudre, voilà, ça ne nous le regarde pas non plus du point de vue technique. Eh bien oui, là, c'est notre question. Les questions les plus importantes sur lesquelles on travaille à l'heure actuelle ont trait aux variantes de noms de domaine internationalisés, notamment ceux qui sont liés sans exclusivité au bureau central des marques, des questions de problèmes d'espace de noms, quel serait l'impact sur les noms de domaine à déléguer comme TLD, que se passe-t-il s'ils sont déjà utilisés? Les implications sont significatives, alors le risque peut être gérable ou pas. Le risque peut devenir un risque gérable ou c'est quelque chose qui est vraiment, on n'a pas l'occasion de gérer. Alors il faut être très prudent avec la délégation. La délégation doit être retardée ou bien il est possible que certains TLD ne doivent pas être délégués. Pas du tout. En ce moment, nous travaillons sur ces points-là. On travaille aussi avec les attaques au service, mais en général, les variantes et les collisions d'espace de nom, c'est notre affaire principale. Je passe la parole à mon collègue. Merci, c'est un plaisir d'être ici ce matin. Je suis content de pouvoir vous adresser la parole. Je suis l'un des deux coprésidents du comité des services de la zone racine. Mon activité est focalisée est plus focalisée que celle du SAC. Nous travaillons avec le service de serveurs. Il y a maintenant 13 groupes de machines administrés par deux organisations différentes, à savoir les points d'entrée à la partie technique du DNS. Lorsqu'un client veut accéder, moi, je dois faire l'évaluation. On commence toujours par le serveur de nom racine. Il y a là une base de données très petite qui est une partie de la base de données des noms de domaine où sont listés 290 TLD, les TLD les plus importants. Il y a 270 CCTLD de pays de région géographique et 13 environ des TLD géographiques. Voilà les TLD génériques. Ce système possède son propre écosystème, ses propres caractéristiques. Moi, je fais l'exploitation d'un de ces serveurs. On travaille avec la base de données de VeriSign au nom d'Yana et tout cet écosystème, le flux de la base de données va dans les serveurs. Les opérations des clients, etc. Tout cela est une partie très critique de l'infrastructure. Alors, notre comité consultatif répond aux demandes du conseil d'administration, mais on essaie aussi d'analyser les différents aspects des services de la zone racine en général pour identifier des problèmes ou des risques avec le système. S'il y en avait, nous pouvons produire des recommandations. Nous n'avons aucun contrôle sur les opérateurs de services racines, mais nous pouvons produire des recommandations. Et comme le comité consultatif des services de la zone racine est constitué par plusieurs opérateurs de serveurs racines et il y en a qui sont invités, il s'agit donc d'un groupe d'experts. Et dans ce sens, on ne va pas émettre des recommandations qui puissent être objectées par les opérateurs parce que ça fait partie du processus de filtre ou de sélection des recommandations. Normalement, on ne sait pas, on n'a pas participé des réunions de l'ICANN. Le groupe existe depuis la première réunion de l'ICANN. J'appartiens au groupe depuis cette époque-là, mais le groupe de personnes qui est dans le comité conseil des serveurs racines sont notamment des experts techniques qui ne participent pas des réunions de l'ICANN. Ils vont plutôt dans des réunions des organismes de normalisation ou l'IETF. À ce jour, on essaie de nous réorganiser. On n'a pas très bien fonctionné. Les progrès ont été très lents avec peu de visibilité et nous voulons que cela change. On est en train de réorganiser la structure avec de nouveaux processus et je veux aussi avoir plus de visibilité, plus d'accessibilité en ce moment. Il y a 4 membres du RSSAC dans cette réunion et j'espère qu'il y en aura davantage dans l'avenir. Que puis-je vous dire encore? Si vous me voyez dans les couloirs, n'hésitez pas de venir, de me poser les questions que vous voudrez. C'est mon rôle et je suis là pour ça. Et je veux raconter à tout le monde ce que nous faisons, ce que nous devrions faire maintenant, en plus de réorganiser la question. On fait encore 2 autres choses. Tout d'abord, la création d'un ensemble de mesures de base. P- pour pouvoir plus tard publier des statistiques, par exemple le nombre de consultations par seconde, le volume des charges, pour que tout le monde puisse savoir ce qui se passe. Et aussi, on essaie de créer une nouvelle version d'un document très vieux qui spécifie les exigences pour les services de la zone racine. Il faut le mettre à jour, il faut élaborer un nouveau document, il faut travailler avec les architectes dans la rédaction d'un nouveau document. Vous avez des questions à poser? Janice, des questions pour n'importe lequel des deux orateurs. Cette semaine, j'ai entendu dire que tout semblerait trop technique et je ne sais pas comment l'ICANN est là, au milieu de quelque chose de si technique. Patrick, tu as mentionné le point que nous n'avons pas besoin de techniciens dans le RSSAC, qu'il faudrait encore plus de diversité. Je voudrais que tu analyses la question. Bien sûr, le RSSAC a 39 membres en ce moment. La raison pour laquelle ce chiffre est élevé, c'est parce que nous avons accepté certains nouveaux membres avant que d'autres membres quittent le groupe. Pour être membre du RSSAC, il faut présenter une candidature. Il faut répondre à un questionnaire. Et les premières mesures que nous faisons, c'est justement pour déterminer si l'ensemble des qualifications est compatible avec le RSSAC. Avant, il y avait des membres spécialisés au DNS. Maintenant, nous voulons des gens qui n'aient pas exclusivement cette spécialisation-là. Nous venons d'incorporer une personne qui travaille dans le secteur des organismes d'application de la loi. C'est un ancien boursier. Il y a aussi une personne ayant l'expertise juridique dans le domaine juridique en matière de télécommunications et d'application de la loi, tous les aspects juridiques, comme par exemple les notifications, etc., qui peuvent avoir lieu ou pas suivant les lois nationales. Voilà donc les incorporations les plus récentes. Il y a aussi des demandes de personnes qui sont extrêmement, qui connaissent extrêmement bien la question. En ce moment, on cherche des gens qualifiés pour nous rejoindre. Merci. Ma question est simple, peut-être. À vrai dire, c'est une question que je veux poser depuis des années. La réponse est peut-être au début de plusieurs manuels du DNS, mais je ne sais pas la réponse. La question est, où est la limite? Je sais qu'il y a 13 serveurs qui s'appellent ABCD, etc. Il y en a en Anycast. Je me demande pourquoi la limitation est au nombre de 13. Pourquoi au nombre de 13? Je vais essayer de vous l'expliquer tout en évitant la terminologie technique. Il s'agit d'une limitation très, très ancienne. La norme technique sur le DNS a déjà 20 ans environ. L'Internet était très différente à l'époque. C'était jusqu'à 100 000 fois plus petite qu'à l'heure actuelle et la technologie était tout à fait différente. Je devrais utiliser quelques termes techniques, hein, parce qu'il s'agit d'une limitation technique. Le système du DNS envoie des paquets par le réseau. Le premier contient une demande, une requête d'information et le serveur répond avec une réponse. Suivant la norme de l'information du paquet ou qui peut entrer dans le paquet, dans les années précédentes pour une question d'épargner la largeur de bande, parce que la limitation était de 60 kilobytes, c'était des modems très lents. Voilà, c'est ça la limitation. Un paquet de DNS ne pouvait pas dépasser les 512 bytes. Okay. C'est une limitation stupide dans l'Internet d'aujourd'hui, mais c'est toujours dans la norme et ça dépend de la structure interne du paquet du DNS. Voyons maintenant, en 1994, à peu près, on a renommé tous les serveurs de la zone racine. Les serveurs avaient leur propre nom. Le nôtre était Iboot, différents noms. On les a tous renommés parce qu'on voulait profiter de la structure interne du paquet de sorte de pouvoir élargir la liste. Mais avec le même nom, ce que l'on faisait, c'était geler l'espace des 512 bytes. Alors, on a fini avec une liste de 13. On ne peut pas entrer dans le paquet plus d'informations sans violer la norme technique. Depuis lors, le DNS a été spécifié comme ça et maintenant, on a le DNS étendu. Alors, la plupart des clients et des serveurs peuvent gérer et là, on peut spécifier. Par exemple, le client dit, il ne faut pas se préoccuper par l'ancienne limitation. Je peux faire quelque chose de plus grand. Je peux opérer avec 2000 bytes. Pas de problème maintenant. Et on était un peu préoccupés lorsqu'on a commencé avec l'IPv6. Mais cela a fonctionné parce que les adresses IPv4, voyons comment je peux le dire, on les met d'abord dans le paquet. Donc, au bord, il y a les adresses IPv6. Mais si l'on commence à mettre davantage de services dans le paquet ou de données, on arrive au bord et avec le DNS étendu, il n'y a pas de problème parce que cela va dans les paquets plus grands. Mais il y a toujours des pare-feux et d'autres questions un peu stupides qui disent « Ah non, le paquet DNS est limité à 512 bytes. Hein? Si le paquet dépasse cette mesure, on va le couper. » Alors on risque d'entrer dans une situation où les gens ne pourront pas accéder à l'Internet parce que le paquet est trop grand. Et voilà donc, il faut étudier plus profondément la question pour voir quel serait l'effet si on allait dans un ensemble de serveurs racines plus grands. Mais c'est vraiment un effort énorme. Et on ne l'a pas encore initié. Il faudra probablement faire ce travail et c'est dans notre ordre du jour à long terme. Nous savons qu'il y a beaucoup de pression des serveurs racines. Je crois que pour des raisons techniques, on ne l'a pas encore fait, mais il y a des raisons politiques pour se faire. Voilà donc l'ordre du jour à long terme. N'attendez pas une réponse, la semaine prochaine. Ça va prendre des années. Je viens du Pakistan et je voudrais vous demander quelles sont les exigences que vous avez ou comme vous l'avez dit, quelles sont les qualifications spécifiques que vous recherchez parce que vous dites que vous voulez une diversité dans le comité consultatif. Alors, sur la base des questions que vous abordez, quelles sont les qualifications dont vous avez besoin?
Patrick prend la parole. Vous allez avoir l'impression que je dis quelque chose de bizarre parce que je suis le président de RSSAC, mais ma réponse est je ne sais pas. La raison pour laquelle j'ignore cela, c'est parce que nous avons décidé au sein du RSSAC d'avoir quelque chose que nous appelons un comité d'adhésion. Ce comité possède des membres du RSSAC plus notre vice-président Jim Garden. Et ce comité décide, une année après l'autre, le type de qualification dont on a besoin. Il y a différents paramètres, je vais le dire explicitement, qui comprennent la diversité géographique et un équilibre des genres. Donc, ce que l'on fait, c'est une analyse des qualifications dont nous aurons besoin au sein du RCSAC dans la période allant de 5 à 10 prochaines années, parce que chaque membre du RCSAC est désigné pour 3 ans. Nous voyons ensuite quelles sont les qualifications actuelles du RCSAC. Et ensuite, on en effectue une pondération et l'on détermine ce dont on a besoin par qualification pour pouvoir pondérer les catégories les plus importantes pour l'année en cours, par exemple. Ils l'ont fait déjà pour cette année, mais comme moi, je ne fais pas partie de cela, même si je suis le président du RCSAC. Je ne connais pas quelle est la situation actuelle, mais d'une façon générale, nous avons besoin de personnes se trouvant hors des États-Unis. Nous avons besoin de femmes. Nous avons besoin de personnes qui ne soient pas, enfin, des techniciens. C'est l'aspect général. Mais d'autre part, et c'est quelque chose de très important pour nous, lorsque l'une des personnes que je vais prendre comme un exemple, une personne, par exemple, d'un organisme chargé de l'application de la loi, c'est un homme. Mais c'était important parce qu'il savait cela. D'autre part, c'était très important qu'il se trouve hors des États-Unis. Et donc, c'était quelqu'un qui se trouvait basé en Afrique. Dans ce cas-là, après de longues délibérations, il a été beaucoup plus important d'avoir quelqu'un qui participe à un organisme chargé de l'application de la loi que d'avoir une femme. Donc, voilà l'un des exemples où l'on prenait des décisions sur la pondération. Dans ce cas particulier, sur le critère de savoir que l'on avait besoin de quelqu'un qui fasse partie d'un organisme d'application de la loi. Comme je ne fais pas partie de ce groupe, bon, ça peut avoir l'air un peu bizarre. Mais le coordinateur du conseil, aucun de ceux qui ont des positions formelles au sein du RCSAC, nous n'avons pas le droit de vote. Et je n'y participe pas parce que si le comité d'adhésion décide qu'un membre déterminé n'est plus accepté en tant que RCSAC parce qu'il ne répond pas aux critères nécessaires, parce qu'il ne dispose pas de suffisamment de temps pour participer, si ce membre-là n'est pas satisfait de la décision du conseil du comité d'adhésion, nous avons la possibilité d'interjeter un appel. Ils ont la possibilité d'interjeter un appel et cet appel vient jusqu'à moi. Moi, je suis responsable de garantir que les membres du comité fassent leur travail et qu'ils respectent toutes les normes du RCSAC dans son ensemble. C'est pour cela que je ne peux pas en faire partie de ce comité, parce que si je l'étais, je ne pourrais pas évaluer si le travail qu'ils font est correct ou ne l'est pas. Merci. Je m'appelle Eric Aduga de l'Ouganda. Je voudrais poser une question sur la représentativité géographique, mais je crois qu'il y a déjà une réponse à cette question. Je voudrais savoir ce qui se passe par rapport à la question de la stabilité. Quelle a été l'expérience la plus terrible que vous avez dû supporter par le passé? Patrick prend la parole. Bon, à 7 heures du jour, c'est le manque de café, hein? Moi, je crois que, ce qui me vient en premier à l'esprit, ces deux expériences. Cela ne signifie pas que ça a été la partie la plus terrible, mais c'est trop tôt dans la matinée. L'une des situations dans lesquelles on s'est retrouvé au sein du RCSAC en 2003 était liée à la possibilité que les gens puissent envoyer des paquets lorsque l'adresse de sortie n'était pas correcte. Elle était erronée. Elle était fausse. Nous avons eu ce problème sur Internet, et nous avons inclus cette question sur le rapport numéro 4. Il y a eu un comité qui a fait une analyse de cela, et lorsqu'on a fait le rapport, on a dit là que chaque fournisseur de services d'accès devait filtrer les paquets qui sortaient de son réseau vers ce que nous pourrions appeler l'amont en Internet, et que ce fournisseur doit filtrer et éliminer les paquets qui ne viennent pas d'un espace d'adresse correspondant au gestionnaire de cet espace en particulier. C'est l'un des problèmes les plus importants que nous avons lorsqu'il y a des attaques à l'heure actuelle. L'autre expérience se rapportait à quelque chose qui est devenu une habitude. C'était ce qui se passait quand les registres, les bureaux d'enregistrement, ainsi que ceux qui fournissaient des services d'hébergement pour le DNS, quand ils ne disaient pas aux clients qui présentaient la requête que le nom de l'enfant qu'ils cherchaient n'existait pas, ils lui répondaient par un mensonge. Le système le plus connu a été celui du site de recherche de Verisign, mais parce que les médias s'en sont occupés. Hein. Donc, les gens ont commencé à faire des commentaires et cela a soulevé beaucoup de problèmes parce que bon nombre d'applications et bon nombre de gestionnaires de serveurs ont pensé que si l'on recherchait un nom qui n'existait pas, le système de nom de domaine devait répondre « cela n'existe pas ». Et il en va de même pour la collision que nous analysons en ce moment. Voilà donc les deux problèmes les plus critiques, à mon avis, où la question de la contrefaçon des adresses est toujours présente et n'a pas encore trouvé de solution. Nous savons très bien aussi, comme cela nous le savons, nous le connaissons aussi comme BSP 38. Je viens du Sri Lanka et ma question est la suivante. Au terme de la sécurité, quels sont les problèmes soulevé par la proposition de résolution des ADNS. Patrick répond, en ce moment, nous analysons les recommandations du AWD, mais nous ne savons pas encore. D'autre part, nous avons plusieurs documents liés au WHOIS où nous signalons, en des termes techniques, que nous avons besoin de conditions que la communauté a déjà présentées, comme par exemple le contrôle d'accès au cas où l'on voudrait donner un accès diversifié aux données de WHOIS ou les organismes d'application de la loi peuvent avoir un certain accès, ainsi que les gens qui ont des marques déposées. Les utilisateurs peuvent avoir d'autres accès dont on a des problèmes de confidentialité. Ce dont nous avons débattu est lié au problème de la mise en œuvre de mesures de sécurité autour de cela. Par exemple, les données qui sont cachées pour des questions de confidentialité qui ne sont pas filtrées. Et c'est toujours au cas où, pour une législation déterminée, on ne peut pas déplacer les données se rapportant à l'information personnelle. Cela ne peut pas être déplacé au sein de l'Internet. Un autre problème technique existant que nous avons signalé concerne l'internationalisation. Le nom d'une personne doit être traduit, doit-il être traduit, translittéré, ou doit-il être présenté tel qu'il apparaît dans sa langue d'origine? Par exemple, même lorsque je travaille avec des noms de domaines internationalisés, il y a une norme écrite. Je comprends comment fonctionnent les caractères en suédois, en arabe et en chinois, mais je ne peux pas parvenir jusque-là. Même si je comprends comment ça fonctionne, si je vois quelque chose en arabe, cela continue de ne plus avoir de sens. Donc, ma question est la suivante. Si, par exemple, je cherche l'un de vos noms ou prénoms en arabe, est-ce que cela va me venir en arabe? Cela va être traduit dans ma langue? Est-ce que cela va faire l'objet d'une translittération? Est-ce que je pourrais le prononcer, même sans savoir exactement ce que c'est? Même si je sais que c'est un nom ou un prénom. Hein, voilà donc toute une série de questions. Il y a beaucoup de thèmes sur lesquels il faut que nous travaillions. Janice prend la parole. Je crois que nous avons une question posée à distance. Lars, au Pakistan, demande combien de serveurs fonctionnent sur IPv6 et quand est-ce que l'infrastructure a changé depuis l'infrastructure de la racine après la mise en œuvre de l'IPv6. Un autre membre de l'RSSAC prend la parole. Le système de serveurs racine possède 13 adresses IP. Chacune d'elles peut se servir de différents serveurs et l'on commence à utiliser certaines
il y a 10 ans.
Actrices. Je ne sais pas combien d'IPv6 il y en a, mais je crois que c'est la plupart d'entre eux. Patrick m'a dit qu'il peut y répondre. Bon, parce que je pense que cela, c'est le cas de toutes, sauf de. Vous pouvez vous rendre sur la page www.root.slash-server.org. Vous allez pouvoir voir pour chaque lettre pardon, pour chaque lettre, où se trouvent les serveurs, etc. Il s'agit de tous les serveurs, sauf trois, qui peuvent accéder sur IPv6. Cela ne signifie pas qu'ils puissent accéder à tous les sites où ils sont localisés sur IPv6. Mais c'est assez correct. Vous pouvez vous rendre sur le site que je viens de vous demander pour chercher un peu. En fait, les services donnés par les serveurs racines à l'IPv6 sont bons. Et nous voyons seulement quelques questions qui viennent par IPv6. La plupart des questions sont posées sur IPv4. Donc, je crois que nous sommes dans l'ordre des 96% des questions qui sont présentées en IPv4. Je vois quelque chose sur l'écran de batterie d'Ijanis. Il y a quelque chose à propos d'Adobe Connect. Oui, je m'appelle Paul Ingénieur, je viens du Kenya. J'ai deux questions. Je ne sais pas qui pourrait y répondre. La première se rapporte à la manière dont on parvient vers les racines. Comment fait-on pour convaincre les personnes clés à partir des recommandations? Est-ce que vous avez le même format que l'on a au sein de l'IETF où l'on travaille par consensus? Et s'il n'y en a pas de consensus, comment faites-vous pour résoudre les problèmes? La deuxième concerne le BSP38 dont vous avez parlé. C'est une question donc technique. Si l'on tient compte des attaques, du pourriel, etc., comment le BSP38 sera-t-il adopté? Bon, je vais commencer à répondre. Vous avez posé la question sur le processus pour parvenir à un consensus, pour émettre des recommandations. L'un des graves problèmes ou l'un des grands problèmes que nous avons au RSSAC, c'est que ce document n'a pas existé. Pendant 15 ans, cela a existé sans que l'on ait des documentations sur la procédure. Maintenant, nous écrivons une documentation toute neuve. Nous en sommes donc à l'étape de formation, pour ainsi dire, où nous essayons de voir de quelle manière nous allons nous y prendre. L'une des choses que je fais, c'est de m'entretenir avec d'autres groupes de travail, avec d'autres comités consultatifs, obtenir l'information sur la manière dont ils travaillent, quels sont les systèmes qui fonctionnent bien, lesquels pourraient être adaptés à notre environnement. Donc, nous nous formons. La réponse, comme Patrick l'a dit, c'est « je ne le sais pas encore ». Mais j'espère bien avoir une réponse pour la prochaine réunion et cette réponse sera publiée sur notre site web. La deuxième partie, bon, je te la laisse, Patrick. Donc, Patrick prend la parole. Au sein du RSSAG, nous nous servons d'un processus lié au consensus. Moi, en tant que présidente du RSSAG, je décide si nous avons un consensus sur un document ou pas. C'est-à-dire, l'on travaille sur le document jusqu'à ce que l'on parvienne à un consensus. La partie qui fait le travail. Après, on publie le document au sein du SSAC pour une dernière appel à commentaires qui dure une semaine. Par exemple, la question des variantes. Bon, il y en a eu un. Enfin, se termine aujourd'hui à 5 heures à Durban. Donc, c'est pour cela que tout le monde attend pour savoir si nous parvenons à un consensus ou pas. Le SSAC, dans le SSAC, c'est moi qui décide s'il y a un consensus. S'il n'y en a pas, nous avons deux outils dont nous pouvons nous servir. La première, tout membre du SSAC peut dire qu'il n'est pas d'accord sur un débat, sur un thème spécifique. C'est l'un des points qui peut être soulevé. Le deuxième cas, c'est un membre de LSSAC peut émettre des objections sur un document. Et ces objections peuvent être toutes simples ou des objections concernant la rédaction, et alors là, il faut qu'ils expliquent pourquoi cette objection est soulevée. Dans les deux cas, l'information se rapporte au SSAC et il est ajouté à ce document. Lorsque l'on lit ce document SSAC, on pourra savoir qui y a participé et s'il y en a qui ont refusé d'y participer ou s'il y a des objections. Ces objections y apparaîtront aussi. Une fois dit ceci, je dois vous dire que nous avons 3 ou 4 documents sur 57 pour lesquels on a présenté des objections ou des personnes qui ont refusé d'y participer. Je peux donc dire que la plupart des documents, pratiquement tous les documents que nous rédigeons, sont basés sur le consensus. Quant au BSP 38, malheureusement, nous n'avons eu aucune mise à jour. Nous croyons, c'est ça, qu'il y a une différence entre le BSP 38 et le SC, le document numéro 4, pardon, le rapport numéro 4 que nous avons présenté. Nous n'avons pas dit que tous les ISP doivent être filtrés parce que dans certains cas, ils sont liés avec des ISP ayant différentes paires. Donc, il est très difficile de faire l'exploitation avec le BSP 38 et il y a un risque accru. Ce que nous disons dans le SAC 4, dans le rapport numéro 4, nous disons qu'il faut qu'il y ait un filtrage au bout de la source, c'est-à-dire aussi près que possible de l'ordinateur, de la personne qui se sert de cela. C'est là qu'il faut appliquer le filtre. Au SAC 4, nous avons dit que ce filtrage peut se faire à la source et qu'il peut être difficile à mettre en place. C'est pour cela que vous pouvez voir, et c'est ça que nous parlons dans notre document, comme SAC4. C'est plus facile à mettre en œuvre que le BSP 38. Mais pour certaines personnes, il semble bien qu'il n'y ait pas de différence entre ces deux documents. Janice prend la parole. Je sais que nous avons 2 questions encore, mais la personne du GAC a une réunion à 8h30, donc je vous demande d'être bref. Bonjour à tous. Je m'appelle Kibobab. Je viens du Kenya. Je suis boursier. J'ai une question technique à poser. Au jour des attaques dans les installations de l'Iran sur Internet, comment peut-on expliquer si cela a concerné le logiciel ou le matériel? Et si c'était le matériel, ou ce dont on s'était servi sur les serveurs SINA, un mécanisme déterminé pour s'assurer qu'il n'y ait plus ces éthiques ni pour le logiciel ni pour le matériel. En plus, je reçois des centaines de courriels où l'on dit que ces attaques proviennent de mon ordinateur et qui sont envoyées, évidemment, dans la boîte du pourriel. Et moi, je ne sais pas d'où viennent tous ces courriels. Je ne sais plus comment les gérer. Puis j'ai une autre question sur la manière dont le gouvernement des États-Unis contrôle de façon totale la racine. Un exemple est lié à ce qui s'est passé avec Wikileaks.com. Bon, c'était un peu bizarre parce que cela a été diffusé très, très, très largement et on a trouvé beaucoup de clones de Wikileaks. Nous ne parlons pas ici d'indépendance de la racine. Bon, c'était beaucoup de questions. La réponse rapide, pour ainsi dire, c'est que chacun peut se protéger soi-même des attaques qu'ils peuvent avoir. C'est une responsabilité commune de tous sur l'Internet pour vérifier que tout aussi bien le logiciel que le matériel soit à jour. Il n'y a rien à faire en particulier à cet égard. Je ne sais pas si vous voulez une information plus spécifique sur les serveurs. Bon, nous pouvons en parler plus tard. Quant à l'indépendance des serveurs racines, ce qui s'est passé avec Wikileaks.com, bon, cela n'a rien à voir avec les serveurs. La demande de suppression de Wikileaks.com et qui est parvenue au registre, c'est quelque chose qui est lié en quelque sorte aux législations qu'il y a partout dans le monde. Où que le bureau d'enregistrement ou le registre se trouve, ils ont une juridiction où l'on applique certaines compétences. S'il y a quelque chose qui se passe dans cette juridiction, il faut respecter ce que disent les tribunaux de la juridiction et les organismes chargés de l'application de la loi dans cet endroit. Mais je crois que ce qui vous inquiète, c'est que la décision dans une juridiction déterminée peut avoir des conséquences sur la communication dans d'autres juridictions. Et cela se complique lorsque les deux juridictions ne sont pas superposées. Au sein de SESAC, nous avons rédigé un document concernant le blocage d'accès aux services au sein d'une ANS. Je ne me rappelle pas le numéro du document, mais vous pouvez le rechercher et le lire, parce que c'est là qu'il faut lire entre les lignes. Comment se servir du DNS pour ne pas avoir accès aux services? En ce qui concerne votre question sur le logiciel et le matériel des serveurs racines, il y a 12 manières d'exploiter les serveurs racines. Cela peut avoir l'air un peu bizarre. Nous coopérons le moins possible. Et pourquoi? Bien sûr, il y a une coopération pour les opérations. Nous sommes très stricts dans l'approvisionnement du service correct et identique, indépendamment du serveur racine dont nous puissions parler. Mais nous voulons avoir une diversité, parce que nous voyons que la diversité est une force. Donc nous ne devons pas avoir exactement les mêmes procédures, nous ne devons pas avoir exactement le même logiciel et le même matériel. Je sais à peine ce que les autres ajoutent. De temps en temps, nous faisons un rapport, nous informons de ce que nous utilisons, mais nous ne le faisons que de façon très générale. Bien sûr, je pourrais dire que nous avons des procédures et que nous faisons nous-mêmes nos installations, que nous ne faisons pas d'installations à distance sur d'autres sites. Nous essayons de nous servir de systèmes sûrs dans la mesure du possible. Les experts des installations ont des années, une expérience longue d'années. Ils connaissent le développement des normes, la communauté du logiciel. Mais la force se trouve dans la diversité. C'est NetNode. Et la cible des attaques, cette même attaque n'aura pas d'effet pour VeriSign ou pour ICANN, parce que c'est des systèmes qui sont complètement différents. Et c'est un point vraiment fort en termes de flexibilité du système. Voilà la réponse que je peux vous donner pour le moment. Merci.
Je tiens à vous remercier tous les deux d'avoir démarré la journée si tôt pour venir faire votre exposé devant les boursiers. On va se revoir à Buenos Aires. Merci beaucoup. S'il y a des questions encore, je te demande de t'occuper, Tracy. Tracy, si tu as une présentation, on va la préparer. Tracy Hackshaw est l'orateur suivant. Tracy, vas-y, bonjour à tous. Salut. Vous êtes réveillés? OK. Je m'appelle Tracy Hackshaw. Je suis un ancien boursier. Ma dernière participation au groupe des boursiers a été à Cartagène, en Colombie, en 2010. Depuis lors, je suis membre du GAC. J'ai été choisie, j'ai été élue vice-présidente. Je crois que ça s'est passé à Toronto. Et ma première réunion et cette conférence, c'est donc ma première réunion en tant que vice-présidente. C'est un voyage très intéressant. J'ai commencé à l'ICANN, à Sydney, où vraiment ça s'est très bien passé. Par la suite, j'ai participé de la réunion de Cartagène. Pour ceux qui viennent d'arriver, c'est votre premier voyage. Je vous raconte que c'est un moment très intéressant. J'espère que vous trouverez un espace au sein des différents comités et que le voyage du boursier puisse vous inspirer. Je ne sais pas si vous avez vu ce petit bouquin qui est très intéressant. Il se trouve dans la salle des nouveaux venus. C'est quelque chose d'intéressant à voir. Dans la page 11, on vous explique ce que c'est que le GAC. Si vous ne l'avez pas, procurez-le, parce que c'est très intéressant. C'est le guide des nouveaux venus, des nouveaux arrivés. Il y a certainement une copie en format informatique sur le web de l'ICANN. J'appartiens au GAC. Je représente mon pays, Trinité et Tobago. Et comme vous pouvez voir dans la diapo qui est sur l'écran, je vais faire vite. On est un comité indépendant de l'ICANN qui comprend 120 gouvernements membres, 129, pardon. Il y a presque tous les pays du monde. On est au nombre de 129 maintenant. Et je crois que dans cette réunion, il y a environ 70 ou 80 pays membres qui sont représentés, qui sont présents. C'est justement celle-ci, la salle du GAC. Vous voyez, elle est de plus en plus grande. La table est de plus en plus grande. On ne se voit plus les visages. Mais on va voir comment on pourra gérer cette question au GAC. Il y a aussi des membres de ce que l'on appelle les organisations intergouvernementales comme l'OCDE, l'OMPI, l'Interpol, etc. Il y a, pardon, qui ont le statut d'observateur. Dans la salle, il y a des membres des gouvernements et des organisations intergouvernementales. Et c'est très important. Tout d'abord, parce qu'il y a le processus des nouveaux GTLD et aussi pour ce qui est du cyberdélit et de la cybersécurité. Les gouvernements travaillent ensemble pour résoudre la question. Les organisations intergouvernementales ont un rôle intéressant dans ce sens. Le rôle du GAC, dans le livre jaune et dans la diapo, on dit que le GAC est un comité consultatif. Il s'agit d'un organisme qui donne du conseil et pas une organisation de soutien. Le GAC donne son avis. Le GAC donne son avis au conseil d'administration de l'ICANN. On se réunit pour donner des conseils, des avis ou des recommandations. L'important, c'est que les avis du GAC sont... répondent au statut. Et les statuts du GAC sont assez singuliers, pourrait-on dire. Je vais le lire. Je vais le lire lentement. L'avis du GAC sur des politiques publiques doit être tenu en compte aussi bien dans l'adoption et la formulation de politiques. Voilà donc, ça c'est le conseil normal. Et il est très important dans l'hypothèse où l'ICANN devait prendre des actions ou qui ne soient pas cohérentes avec l'avis du GAC. On doit informer immédiatement le comité et clarifier les raisons pour lesquelles l'avis du GAC n'est pas respecté. Le GAC et le conseil doivent de bonne foi essayer de manière efficace de trouver une solution mutuellement acceptable. Et puis après, au cas où ils n'y aurait pas de solution possible, le Conseil de l'ICANN doit préciser les raisons pour lesquelles l'avis du GAC n'a pas été respecté. Et cette déclaration doit avoir lieu sans préjudice des droits et des obligations des membres du GAC et des responsabilités stipulées. Cette déclaration est très importante, cette affirmation est très importante, parce qu'on a perçu au sein de la communauté du GAC que les gouvernements représentent les intérêts individuels en plus des intérêts du GAC. Au sein du GAC, ce que nous faisons, c'est autour de cette même table, nous essayons d'arriver à ce que l'on appelle consensus. Que veut dire consensus? On prend place autour de la table et on ne vote pas. Hein? On essaie d'arriver au consensus. On discute, il y a des débats, des discussions sur des questions courantes et nous essayons d'arriver à un consensus. Ce consensus, normalement, est produit sous un communiqué qui était mis à la fin de la réunion. Il y a eu plusieurs réunions avec plusieurs communiqués où l'on a émis aussi des objections par consensus. Ce sont des objections pour des candidatures au nouveau GTLD. Ce que nous voyons, c'est qu'il y a un processus sans vote, mais que les membres décident d'émettre une objection et au cas où un membre du comité déciderait d'objecter l'objection, alors là, il n'y a pas de consensus. Pour ceux qui connaissent la question de point Patagonia, point Amazon et tous ces problèmes-là, vous devez sans doute savoir ce qui s'est passé à Beijing. Il y a eu une ou deux, une objection pour point Africa et une autre pour un code de pays. Il y en a eu deux objections qui n'ont pas été objectées de avec consensus. Qu'est-ce que cela veut dire? Que les gouvernements peuvent initier une action au sein du GAC ou en dehors pour défendre ses intérêts. Il est important de comprendre que les questions gouvernementales sont considérées très sérieusement par les gouvernements et nous utilisons le GAC comme un moyen pour travailler au sein du modèle multipartite de l'ICANN. Toutefois, les gouvernements sont intéressés aux questions d'intérêt public, de politique publique. Alors, nous travaillons ces questions d'intérêt public. En ce qui concerne les questions liées au cyberdélit, la cybersécurité, IDN, etc., en général, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de grands problèmes en ce qui concerne la vie du GAC. De temps en temps, il y a des conflits qui apparaissent. Et ce qui arrive, c'est que le GAC essaie de résoudre ces conflits avant l'émission de son avis au conseil d'administration. Le GAC essaie de gérer la question avec le conseil d'administration. Hier, en coulisses, il y a eu des conversations entre les présidents et les vice-présidents avec des membres des différents gouvernements. Par exemple, sur les chaînes de caractères susceptibles de se prêter à confusion, des questions comme l'utilisation du singulier et du pluriel. Les membres du GAC donnent des avis au conseil, ils posent des questions sur ce qu'ils ne comprennent pas. En coulisses, il y a beaucoup de conversations qui sont faites au niveau des sous-comités ou des conversations privées directement avec les membres du conseil. Comme je vous le disais, la vie du GAC peut être différente. Je vous invite à visiter le site web du GAC gac.ican.org. Là, vous trouverez une liste, un fichier très complet de tous les avis du GAC, je crois que depuis 2002. Vous trouverez les questions liées à l'IDN et même avant de commencer, les principes du GAC sur le nouveau GTLD depuis 2013. Vous trouverez tout cela enregistré dans des avis du GAC qui sont disponibles pour consultation. Le site est ouvert à tout le monde. Je ne sais pas si les gens visitent normalement le site pour essayer de comprendre quelles sont les activités du GAC. Dans ce site, on peut aussi savoir comment devenir membre du GAC. Il y en a parmi vous qui sont des membres du gouvernement. Il y a des boursiers qui sont des fonctionnaires ou des employés du gouvernement. Vous connaissez des membres du GAC? Il y en a qui appartiennent à des gouvernements. Vous connaissez des membres du GAC? Il est très important que vous connaissiez les représentants du GAC qui correspondent à vos pays. Et pour finir, avant de recevoir vos questions, c'est la chose suivante. Je vous recommande que dans vos pays, tout premièrement, vous devez identifier quel est le représentant du pays auprès du GAC et que vous leur présentiez vos idées, racontez-leur qui vous êtes, ce qui vous intéresse, et vous allez vous surprendre. Comme vous devez avoir vu hier soir, les représentants du GAC, c'est des personnes comme vous, des gens qui veulent passer un bon moment, s'amuser. C'est pas seulement des gens qui mettent la cravate, hein, c'est des personnes, des gens comme tout le monde. Alors, ils sont prêts à vous entendre, prêts à savoir ce que vous voulez faire de l'Internet et de toutes les questions liées à l'Internet. Eux, ils représentent les gouvernements. Et les gouvernements, vous le croyez ou pas, représentent les personnes, sont choisis par les individus. Et le GAC, c'est de représenter les intérêts du pays et de la population de ce pays. Tous ceux qui représentent les utilisateurs au sein des différents groupes de l'ICANN représentent des personnes, des individus, ainsi que le GAC. Alors, je vous suggère d'identifier et de contacter le représentant du GAC de votre pays. Toutes les adresses e-mail se trouvent dans le site du GAC. Vous pourrez leur envoyer un courriel. C'est de l'information publique. Vous allez être surpris parce qu'ils veulent vraiment interagir avec vous. Sinon, vous pouvez assister aux réunions du GAC après la séance actuelle. Il va y avoir une session ouverte entre GAC et ALAC. Et racontez d'où vous venez. Je viens de ci, de là. Voici mon problème. C'est ce que je veux vous raconter. Vous allez vous surprendre. Vous allez être surpris du fait qu'ils sont intéressés à tout cela parce qu'il y a des membres qui viennent ici pour comprendre même de quoi il s'agit. C'est très important que vous leur présentiez vos problèmes et vos soucis. Eh bien, je crois que ça a été une bonne introduction. Je ne sais pas si vous avez des questions. Il y a encore 7 minutes. Dite Moraine, je viens de la Jamaïque. J'appartiens au programme des boursiers. J'ai un souci par rapport à la Jamaïque. Bien que nous avons un représentant auprès du GAC, il semblerait que le gouvernement n'a pas une connaissance très approfondie de l'importance de l'ICANN ou de l'importance pour le pays. Que conseillez-vous pour que le représentant du GAC puisse sensibiliser par rapport à l'importance de l'ICANN dans notre pays? Je crois que c'est un problème normal dans les pays en développement. Le modèle de l'ICANN n'est pas très bien connu ou très bien compris. Il y a beaucoup de pays en développement dans les Caraïbes, en Afrique et aussi dans la région du Pacifique. L'UIT, c'est normalement qui est considéré l'organisme de l'Internet. Pourquoi? notamment parce que l'OIT fait le finance des projets dans la région. Des gouvernements, des fonctionnaires gouvernementaux savent quelles sont les activités de l'OIT. Il y a des représentants qui ont été déboursiers. Alors, il est très important pour vous de travailler avec quelqu'un comme CARICOM et la Jamaïque, que vous utilisez l'information du chapitre avec l'ISOC Jamaïque. Dans certains pays, les chapitres d'ISOC sont les points de lobbying pour vous s'assurer que le gouvernement comprennent ce que c'est que l'ICANN et l'ISOC, qu'il ne s'agit pas seulement de télécommunications, que l'OIT est aussi trait à la gouvernance, aux parties prenantes. Il est donc très important de s'assurer que tout cela soit bien connu. Je reconnais donc la difficulté. Travailler donc avec la communauté pour faire du lobbying, mener des réunions avec des représentants du gouvernement conjointement avec les représentants de l'ICANN. Vous allez être surprise de la manière dont cela change au fur et à mesure dans les pays en développement. C'est très difficile d'avoir une réunion avec ces personnes, hein, de demander une réunion avec ces personnes, mais invitez-le dans vos réunions conjointes. Je m'appelle Barisson, je viens de l'Iran. Et j'ai trois questions à poser. Les pays membres du GAC sont des membres des Nations Unies ou il y a d'autres critères pour choisir les membres? Deuxièmement, la moitié des membres du Conseil, que se passe-t-il lorsqu'il n'y a pas de soutien à la vie du GAC au cas des nouveaux GTLD? Je ne comprends pas pourquoi les gouvernements discutent de la question de politique publique. Je ne sais pas si les organismes de la société civile ont quelque chose à dire sur les candidatures des nouveaux GTLD ou si c'est seulement les gouvernements qui peuvent présenter des objections à ces demandes. Tracy? On va parler rapidement des statuts. Les membres du GAC, c'est-à-dire n'importe quel pays peut être membre du GAC. Il doit y avoir la représentation de toute économie et il y a aussi des organisations internationales qui doivent faire la demande à la présidence du GAC. Alors, c'est comme le système des Nations Unies, hein? Alors, le GAC est basé sur la liste des Nations Unies. Il peut y avoir des représentations au sein du GAC. En ce qui concerne votre deuxième question, c'est la boursière qui va parler. Les membres du Conseil n'accepte pas normalement les suggestions, Tracy. Bon, je crois que c'est le 10% des cas. C'est 10% des cas. En ce qui concerne les programmes de nouveau GTLD, je ne crois pas que ce soit juste de dire que les gouvernements sont les seuls qui participent au programme des nouveaux GTLD parce que c'est toute la communauté qui fait des recommandations. Ce qui arrive, c'est que les gouvernements sembleraient avoir une fonction unique, exclusive, parce qu'ils peuvent présenter une objection pour n'importe quelle raison. Pas à tout moment, hein, parce que la période est prête d'être clôturée, mais là, raison pour laquelle cela se passe, c'est que les intérêts de la politique publique peuvent affecter beaucoup de gens. Il y a des lois internationales analysées par le gouvernement et l'ICANN doit voir, pas toutes les lois du monde, mais par exemple en Macédoine, un pays qui s'appelle Macédoine, il y a une loi qui interdit l'utilisation d'un nom déterminé. Et le nom allait être approuvé par l'ICANN. Et à moins que la Macédoine présente ce problème, l'ICANN ne va pas le savoir. Alors, le gouvernement peut agir et dire, eh bien, cette chaîne de caractère n'est pas acceptable dans notre pays, alors nous voulons présenter une objection à cette chaîne de caractère. Voilà donc un grand défi des gouvernements, pour les gouvernements, il est nécessaire de comprendre qu'il existe des lois nationales qui sont plus importantes, qui ont plus de valeur que les normes d'ICANN. On ne peut pas faire quelque chose qui puisse offenser un autre pays, hein. On ne peut pas le faire. Si c'est une offense pour un autre pays, on ne peut pas le faire. Alors, il faut gérer tout ça. Les gouvernements jouent donc un rôle dans ce sens. Au cas de Point Amazon, par exemple, un grand nombre des objections ont été présentées par la société civile, par les utilisateurs. La même chose pour Patagonia, Point Brésil. Tous les citoyens ont donné leur soutien pour présenter l'objection. Ce n'est pas le gouvernement qui l'a décidé, mais le gouvernement a dit « Je ne veux pas que Point Patagonia ou Point Amazon soient délégués dans d'autres juridictions, etc. etc. » Alors, c'est justement pour chercher un équilibre.
Janice prend la parole. Je vais donc céder la parole à Tracy parce que, en tant que vice-président, je sais qu'il doit assister à une réunion, mais si vous voulez sortir avec lui, vous pouvez le faire. Vous devez le saisir là où vous le trouverez. Nous allons continuer et nous allons continuer à travailler avec nos amis de NPOC, l'unité, le regroupement des organisations à but non lucratif. Tracy, merci énormément de ta participation. Je veux vous rappeler, parce que je vois qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont leur micro-ordinateur allumé. Je vous prie en ce moment de bien vouloir éteindre pendant un certain temps vos micro-ordinateurs parce que je veux vous voir centré sur ce que nous faisons ici dans la salle. Moi, je veux voir vos visages, hein. Donc, bonjour, je m'appelle Marie-Laure Neminor, je suis le président du NPOC. Et pour nos amis de l'Argentine, je voudrais savoir comment vous allez. Je vous souhaite la bienvenue à l'ICANN. Je ne sais pas, vous voudrez peut-être vous présenter, Klaus, et puis je vais faire mon introduction. Je m'appelle Roli Bansnik. Je suis le vice-président du Comité des politiques du NPOC. Je travaille il y a 10 ans dans ce monde de l'ICANN. Avant, je travaillais au comité consultatif d'Adlarge. J'ai été l'un des membres qui a établi l'Adlarge en 2003 et en 2007. J'ai été l'un des membres fondateurs de El Ralo, l'organisation régionale d'Adlar. Je ne vais pas parler toutes les langues que je parle, parce qu'il n'y a pas de d'interprétation pour toutes ces langues ici derrière nous. Mais bon, je vais revenir à tout ce que je devrais dire plus tard. Je vais céder la parole à Klaus. Je m'appelle Klaus Stoll. Je suis fonctionnaire du programme du NPOC. Dans ma vie privée, je suis directeur. Je suis directeur général d'une organisation, d'une fondation. Il y a 10 ou 11 ans, j'ai trouvé par hasard une réunion de l'ICANN en Europe. Je suis tombée sur une réunion de l'ICANN en Europe et j'ai vu des choses dont je n'ai plus pu me défaire jusqu'ici. Je ne sais pas si c'est l'enthousiasme de l'ICANN ou le nom que vous voudrez donner à cela, mais c'est l'une des modalités de l'exercice du gouvernement. Et pour ceux qui travaillent près de Nations Unies et du reste des gouvernements qui sont représentés dans l'une des entités, sinon la meilleure, pour vous dire comment fonctionne l'ICANN. Ce qui marche bien et ce qui ne marche pas au sein de l'ICANN. Je crois que l'un des meilleurs lieux pour se retrouver, c'est justement celui-ci. Donc je vous remercie d'être venu nous rejoindre. Malil, Marie-Laure prend la parole. Je n'ai pas de présentation formelle parce que je crois qu'il faut partager certaines réflexions, certaines idées. Je vois des visages qui me sont familiers par là. Bonjour. Bon, je ne veux pas trop parler et je ne veux pas faire étalage des langues que je parle. Bon, des fois, il m'arrive de vouloir être gentil et de parler la langue de tout un chacun. Bon, nous représentons au sein du NPOC. Si vous me dites que ce n'est pas annoncé que si, bon, eh ben, je vous dis oui. Parce qu'en fait, c'est un regroupement d'organisations à but non lucratif. Nous représentons les intérêts des associations à but non lucratif au sein de l'ICANN. Nous travaillons sous la protection de la NCUC et le NPOC. Nous sommes membres d'organisations non gouvernementales, les ONG, qui vont des plus petites aux plus grandes de partout dans le monde. Cela signifie que si l'un d'entre vous appartient à une ONG et qu'il veut nous, et que vous voulez nous rejoindre, bien sûr, nous allons vous accueillir chaleureusement. Nous sommes un regroupement récent. Je crois que nous sommes le groupe le plus récent depuis sa création au sein de l'ICANN. Cela signifie que nous avons besoin de personnes qui viennent nous rejoindre, qui soient fortement motivées, fortement engagées sur la gouvernance d'Internet et sur tout ce qui concerne le DNS. Je vais vous donner quelques exemples des thèmes que nous abordons pour que vous ayez une idée pratique des thèmes sur lesquels nous travaillons quotidiennement. Pour ICANN et pour le DNS en particulier, une question liée à la base de données WHOIS. Il y en a parmi vous peut-être qui la connaissent. Toute cette question du WHOIS dont on a débattu pendant des années et même bien des années avant mon arrivée, je crois que je suis là il y a un an juste. Tout cela se rapporte à des questions de confidentialité, de protection de données. Bien sûr, tout cela va au cœur des ONG et de ceux qui parlent de la protection des droits de l'homme, de la liberté d'expression. Certains membres des ONG affrontent des situations très difficiles dans certains pays. Donc, si les données privées, ce que nous estimons être des données privées, où il y a des noms, des données de contact, sont présentées de manière publique avec un accès restreint, avec un accès illimité, pardon, pour tous, cela est assez complexe à notre avis. Ce n'est pas quelque chose de bon. Donc, au sein de l'ICANN, nous participons à un groupe de travail pour essayer de suggérer qu'il faut être vraiment très prudent là-dessus et que les gens prennent conscience, qu'ils soient sensibilisés, qu'ils sachent qu'il faut introduire cette notion de protection de la confidentialité des registrants. Ce sont des thèmes très importants pour nos membres. D'autres thèmes importants sont liés à la protection des noms des ONG, les noms de domaine. On peut avoir des problèmes qui se sont posés pour certaines ONG dans le cas des désastres dans certains pays, des organisations de bénévolat qui existent de trouver des fonds en ligne et certaines personnes pas très correctes se servent de leur nom. Ils se servent de leur nom en ligne, ils veulent toucher l'argent que les gens donnent à ces ONG. Et bien sûr, c'est une contrefaçon, c'est une organisation frauduleuse. Et l'argent n'arrive pas vraiment à l'organisation en question. Donc, au sein de l'ICANN, nous avons différentes manières de travailler, de participer. J'imagine que maintenant vous comprenez que l'organisation est assez complexe, qu'il y a plusieurs processus qui se déroulent parallèlement. Nous participons à des groupes de travail. Voilà l'une des modalités de participation. Vous savez aussi, pour les membres de la communauté, vous savez que vous pouvez présenter vos commentaires. Cela se rapporte aussi aux intérêts de la communauté. Et nous, au sein du comité exécutif, nous disons, bon, on va parler de ceci, on dit... qui va se rendre dans certaines réunions selon l'expérience, les connaissances préalables spécifiques, etc. Ou bien nous pouvons décider de faire un commentaire public. C'est une autre manière de travailler. Parfois, on n'a pas le temps de trop être concerné. C'est du travail volontaire, c'est du travail de bénévolat, quelque part, parce que cela signifie qu'il y a toutes les semaines, ou presque toutes les semaines, des téléconférences d'une heure, deux heures en ligne, et tout ce qu'il faut lire entre l'une et l'autre. On a besoin non seulement d'être en ligne, mais il faut faire ses devoirs. Si on veut travailler sérieusement, il faut le faire. Mais si on veut participer de manière passive, parce qu'on n'a pas le temps de tout lire, bon, on peut le faire, mais ce n'est pas facile non plus, parce qu'on ne peut pas faire de contribution. Pour vous, c'est intéressant peut-être pour des questions professionnelles ou d'autres qui sont très actifs et qui se passionnent de ce qu'ils font. Et ils contribuent longuement par leur lecture, par leurs commentaires. Parfois, on n'a pas le temps de participer, mais on s'intéresse à ce qui est dit. Alors, on peut rédiger des déclarations de politique ou faire un commentaire au sein de NPOC, ou bien se réunir avec nos collègues du regroupement non commercial et dire, bon, nous allons présenter un commentaire. Bien sûr, on peut faire du lobbying dans les couloirs, et je parle de lobbying au bon sens du terme, au sens correct du terme. Je veux le dire avec un sens positif. Parfois, on peut aller s'entretenir avec quelqu'un de notre regroupement et lui dire, écoutez, je suis inquiet à propos de ceci ou de cela. Est-ce que nous pouvons travailler ensemble là-dessus? Est-ce que vous êtes d'accord sur ce que nous disons? Nous pouvons faire ceci ou cela. Donc voilà une manière de travailler. Nous organisons aussi des séminaires sur des questions ponctuelles qui nous semblent très importantes. Par exemple, dans la réunion précédente de l'ICANN à Pékin, nous avons organisé un séminaire sur le rôle de la jeunesse au sein du DNS. Nous avons aussi organisé un atelier sur l'impact des points ONG sur la société civile. Je ne sais pas si vous les connaissez, mais il y a une nouvelle extension de domaine qui est .ONG.NGO. C'est une nouvelle option sur le marché, disponible sur le marché. Nous invitons différents experts des secteurs privés, des avocats, des membres de la société civile. Chacun, depuis sa perspective, a partagé avec nous sa vision de l'introduction de ce point ONG et l'impact que cela peut avoir sur la société civile. Dans ce contexte, par exemple, il y a un thème en particulier qui est lié au registre de points ONG qui doit définir comment il va enregistrer des ONG légitimes. Parce que il faut donner le point ONG à une organisation qui en soit vraiment une ONG. Ceux qui participent à des ONG savent qu'il y a de toutes sortes d'ONG partout dans le monde. Il y en a qui sont des vrais et d'autres qui sont des fausses ONG. Et ça, c'est un aspect intéressant, bien sûr. Nous avons cet après-midi un séminaire sur un projet auquel nous tenons à cœur, qui s'appelle I Inform Alliance. Mon collègue Klaus va vous en parler, va vous parler de cette alliance. Klaus prend la parole. Oui, on a parlé d'un site très ennuyant de l'ICANN, c'est Mary Law qui l'a fait. C'est ce que nous faisons. Voilà pourquoi je suis assis parmi vous. Je serai ici pendant 5 jours. Je vais m'asseoir avec une climatisation. Je ne vais pas mourir seul, lentement, mais doucement, comme ça, soigneusement. Il y a une partie très importante, fascinante de l'ICANN qui se développe en ce moment. Et je vais commencer par quelque chose de fondamental. Lors de la formation de l'ICANN, il y avait des conférences. Il n'y avait pas trop de monde qui sache ce que c'était que l'Internet. Et il y en avait très peu qui étaient infectés par l'Internet. À l'heure actuelle, cette infection s'est répandue. Énormément. Il y a très peu de personnes, de celles qui sont parmi nous et qui font de la gouvernance d'Internet. Mais tout le monde, là, au dehors, en est affecté. Donc, si nous ne gérons pas, si nous ne voyons pas comment faire pour combler cette brèche, il n'y a pas de motif pour réclamer une légitimité. Et on ne peut pas faire de réclamation ni de part ni de l'autre, d'une part ni de l'autre. Au point de vue de l'NPOC, nous avons créé ce que nous appelons le High Inform Alliance. Il ne s'agit que d'une alliance de parties prenantes à la gouvernance d'Internet dans le but de... Enfin, dans le but essentiel de... Et maintenant, vous allez écouter tous les mots bizarres. Hein, la démocratisation de l'Internet. Pour que tout le monde sache quels sont les effets de la gouvernance d'Internet sur eux et comment cette gouvernance est gérée. Ce que nous essayons de faire, c'est essayer de réunir les différents groupes et nous n'essayons pas de faire une autre organisation. Nous disons délibérément, non, nous ne voulons pas constituer une autre organisation, nous ne voulons pas avoir d'autres questions de gouvernance, nous ne voulons pas un autre espace de parole, parce que le moment des paroles est déjà passé. Ce que nous voulons, c'est travailler ensemble et dire comment nous parvenons. Cela peut sonner un peu bizarre pour vous, mais comment nous atteignons les masses, pour ainsi dire. Cela se rapporte à la mise en œuvre de différents types d'actions. L'un d'eux, c'est GTLD pour le D, pour le développement. Ça veut dire pour le développement. Le programme est très intéressant. Il y a beaucoup plus d'opportunités et d'occasions que l'on aurait pu l'imaginer pour avoir des effets positifs dans tous les développements possibles, de l'économie à la culture, en passant par tous les secteurs. Nous sommes en Afrique et vous auriez dû être à Beijing. Et avant Pékin, on disait, pourquoi les conférences ne sont faites que pour ceux qui ont le TLD, pour les candidatures de l'Afrique? Bon, vous savez quelle est la réponse? Elle est très simple. On a le temps, on a l'argent pour avoir un nouveau GTLD. Est-ce qu'on peut le faire si on n'a pas un plan d'affaires, si on ne sait pas comment on va avoir un retour sur son investissement? Il y a beaucoup de personnes ici en Afrique avec 2 ou 3 millions de dollars pour dépenser pour un nouveau TLD, ce dont nous avons besoin. Donc c'est d'un plan d'affaires. Et ces plans d'affaires existent, ils sont là. Ils s'appellent GTLD, basés sur la communauté. Nos amis asiatiques les exploitent depuis des années et il y a une grande expérience à ce sujet en Amérique latine aussi. Cela peut être très facilement transposé en Afrique. Nous essayons donc de promouvoir cette idée des GTLD basée sur la communauté et de leur mise en œuvre. Il ne s'agit pas que de paroles, il faut les exploiter, il faut les faire fonctionner. Le deuxième domaine auquel nous travaillons concerne la mise en application de la diffusion extérieure avec le public en général. De quoi nous parlons en termes pratiques? Voilà. Plus de choses à recueillir, plus de projets, plus de pages web pour aller savoir ce que c'est qu'un CCTLD. Non, c'est fini. Je crois que la plupart d'entre vous savent ce que c'est que, la BBC, ce que c'est que Algeria. Un programme de 5 ou 6 minutes pour expliquer à tout le monde, en peu de mots, ce que c'est que la gouvernance d'Internet, comment ça fonctionne. On n'a besoin que de ça, rien que cela, pour que les gens sachent comment cela fonctionne. On vient de me dire que j'ai peu de temps. C'est donc mon dernier commentaire. C'est vraiment très bon de parler d'associations multisectorielles, mais cela ne signifie pas, lorsque nous en parlons, que cela fonctionne. Les associations multisectorielles doivent être basées sur des situations gagnant-gagnant. Tous autour de la table doivent quitter cette table avec quelque chose de positif. L'un des points sur lesquels nous travaillons, c'est sur tout ce qui concerne la gouvernance d'Internet pour créer des situations gagnant-gagnant. où tout le monde gagne. Si vous voulez en savoir davantage, il y a beaucoup de documentation, mais c'est bien mieux que cela, c'est d'assister à notre séance à 2h de l'après-midi et une séance d'une demi-heure si vous voulez avoir davantage d'informations. Si vous avez des questions, des inquiétudes, des soucis, venez nous voir, il y a suffisamment de place pour tous. Je voudrais que mon collègue Woody prenne la parole parce que c'est le président des politiques ainsi que le trésorier. Il a donc le pouvoir. C'est celui qui tire les cordons de la bourse. En ce qui concerne la politique, elle veut peut-être nous raconter quelque chose pour des questions de politique, pour que vous ayez une idée générale de ce que nous faisons à cet égard. Oh, je ne serai pas trop long parce que vous allez vous endormir. Je vais vous permettre d'aller dormir. Hein. C'est Rudy qui prend la parole. Il y a quelques années que je travaille au sein de l'ICANN. J'ai été pendant 8 ans au sein de At-Large pour donner mon avis, mes conseils, pour conseiller. À un moment donné, je me suis dit, OK, c'est très bien de fournir ces conseils, mais si cela ne sert à personne, à quoi bon le faire? J'ai décidé d'enlever cette casquette et d'en mettre une autre. Et je n'ai pas tout à fait quitté le monde at large parce que j'adore ça, je continue à y participer, je suis membre du conseil d'administration de l'ISOC. Je vois que mon ami Tijani c'est cela, il connaît certains collègues avec lesquels nous travaillons en commun. Bon, voilà, je vais vous raconter ce que je voulais vous dire. Il y a quelques mois, après des allées et des venues, j'ai décidé de me rendre sur le monde de la politique. Je pense que si l'on veut quelque chose, si l'on veut faire quelque chose, il faut commencer le travail de conseil à l'étape la plus précoce. Il ne faut pas s'attendre à ce que le conseil arrive au conseil d'administration et qu'il redescende vers le monde des politiques. Mes objectifs consistent à tendre un pont entre les conseillers et les conseils et les équipes de politique et donc, lancer un conseil, un avis très intéressant, une étape précoce et travailler sur ce conseil dans le monde de la politique de telle manière que lorsque cet avis parviendra au conseil d'administration, la politique, aussi importante qu'elle puisse être, puisse apparaître en parallèle. À ce moment-là, donc, le conseil d'administration ne pourra pas dire, il n'aura pas d'excuse pour vous dire, bon, d'abord la politique et puis vous allez entendre. Non, non, non. Ils vont entendre exactement ce que notre PDG a dit, l'ICANN, Fadiche a dit. L'ICANN doit bouger très rapidement. Moi, mes jambes sont courtes, mais je peux aller très vite et je peux demander à mes collègues d'At-Large de confirmer ce que je dis. Je vais très vite, je suis une personne rapide et j'aimerais bien retrouver parmi vous des collègues et de la NPOC. Je voudrais trouver des gens qui rejoignent notre effort pour avoir les meilleures politiques aussi précocement que possible. Donc, vos oreilles et vos yeux bien ouverts, s'il vous plaît, et ne fermez pas la bouche. Je veux que vous parliez, je veux vous voir à la prochaine réunion, je veux que vous participiez à mon côté lorsque vous pourrez le faire. Nous sommes ouverts, j'espère vous rencontrer encore une fois. Merci, Rudy. Sur le site web qui est www.npoc.org. Je ne sais pas si vous avez des questions. Nous avons quelques minutes pour les questions ou les commentaires. Si vous n'en avez pas, je vous remercie. J'ai été très heureuse de pouvoir m'adresser à vous. Nous espérons vous revoir. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. C'est Mary Law qui parle. Le séminaire s'est fait à la salle 3-2, à 2h de 3D, à la salle 2. Ce que vous devez faire, c'est aller derrière tous ceux qui vont les uns après les autres. Bon, Janice dit merci beaucoup. Nous allons enfin clore tout ce que nous avons à faire. Nous allons rendre la salle au GAC. À 5 heures, vous avez quelque chose d'autre sur les associations de noms de domaine et les associations sur les passeports électroniques. Nous ont invités à cette réunion. C'est une séance intéressante pour y participer. C'est une séance vraiment très différente. Nous n'avons jamais eu de semblable auparavant. Donc, l'idée, c'est de susciter l'intérêt de la communauté des entreprises. Et le matin, l'atelier de DNS IPv6, d'abord le DNS, une mise à jour sur la sécurité et la stabilité à la salle 6 en ce moment. Il y a ensuite, en même temps, comme tout apparaît dans les transcriptions et tout cela sera traduit, on pourra connaître le contenu de toutes ces séances plus tard, si vous voulez. J'espère que vous aurez des occasions d'interaction avec des membres de la communauté en face à face. N'oubliez pas que ces séances sont enregistrées. L'initiative d'apprentissage à distance est une nouvelle initiative que Fadi et d'autres membres de l'ICANN essaient de mettre en place pour avoir une diffusion externe améliorée au sein de la communauté. Et puis, il y a l'ère de l'Afrique numérique s'enchaîne à la salle 1A. En voilà. Analysez tout cela. Voyez ce qui peut attirer votre attention, vous intéresser. S'il y a quelque chose qui ne va pas, approchez-vous de moi ou des anciens boursiers et ne nous quittez pas jusqu'au RELA. Il y a des navettes disponibles depuis ce centre de convention pour le RELA. Ne ratez pas le RELA. J'espère que vous aurez une bonne journée. Olivier.
Two.